Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanret, présenté par son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay. Pour ce dernier numéro de la saison, nous recevons Félix Macheret, écrivain, critique d'art et photographe, qui vient de sortir chez Gallimard l'Épitaphe dans la collection L'Arpenteur. C'est son troisième roman. Bonjour Félix.
Bonjour.
Sur la couverture du livre, il y a marqué « roman ». Roman, essai, fiction, autofiction, récit, biographie, autobiographie. Est-ce que ces catégories valent-elles encore quelque chose aujourd'hui ?
La catégorie « roman » englobe énormément de choses. Et c'est ça qui est bien avec une fois que c'est floqué « roman », on peut vraiment partir sur un peu tout. On peut englober de l'essai, de la satire, du pamphlet, etc. Et puis avoir un fil narratif. En fait, c'est la seule contrainte, c'est d'avoir un fil narratif. Mais après, on peut partir sur vraiment n'importe quoi. Et c'est l'intérêt du roman qui s'est un peu perdu, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de narration avec une histoire, etc. Et donc, il y a des tubes de romans qui se font aujourd'hui. Et puis, on peut aussi regarder ailleurs et puis voir ce qui se faisait. Dans le roman, mais du 19e siècle, par exemple, du 20e, etc., avec l'avant-garde qui, eux, le cassaient un peu, et puis s'appuyer sur tout ce qui s'est fait pour se projeter sur ce qu'on appelle, nous, enfin, ce que j'appelle, moi, roman, qui est une définition un peu différente pour chacun, finalement.
Alors, votre livre offre le récit d'un jeune de 33 ans, cynique et désespéré, qui a décidé de mourir, mais avant son suicide se pose à lui un grave problème, autant moral qu'esthétique. Quelle épitaphe doit-on inscrire sur sa pierre tombale ? C'est donc le point de départ de votre livre. Mm-hmm. Comment ça vous est venu cette idée de la pierre tombale comme l'ultime lieu de l'écriture ?
En fait, moi, ce qui c'était le roman est venu et je me suis dit quelqu'un veut se suicider et il trouve pas son épitaphe, et donc je trouvais ça drôle et avec des contraintes, parce que est-ce que l'idée peut être drôle, mais la mort on l'associe pas forcément à l'humour, et comment partir de cette espèce de disjonction entre l'humour et la mort, et puis tentaculer sur des thèmes qui me parle avec la résurrection, l'esthétique, la beauté, la puissance d'une phrase, la postérité, etc. Et donc j'ai commencé à écrire, mais vraiment avec cette idée en tête. Et puis après, il a fallu construire le personnage pour lui donner une consistance, à cette idée qui est au fond exubérante, quoi. Il y a pas vraiment de réalité, c'est un peu Pirandello, si vous voulez, quand il se regarde devant sa glace et qu'il voit que son nez il l'avait jamais vu comme ça, et puis finalement toute l'histoire va se tisser après. Là, c'est un peu la même chose. Et pour lui, qui déteste la littérature, pour ce Cid qui déteste la littérature, on l'apprend au fil des pages, finalement se retrouve lui-même à devoir écrire une phrase qui se veut littéraire, qui se veut littérature et qui se veut littérature absolue. Parce que c'est la dernière, la seule, et donc c'est cette maxime qui restera à sa place, qui le marquera à vie.
Quelle différence vous faites entre l'auteur, le narrateur et le héros ? Vous dites quelque part, je crois que c'est dans les trois pylônes, qu'ils sont des calques les uns des autres.
Dans les trois pylônes, c'était le cas, parce que c'était un roman à la première personne. Et donc, vu qu'il y avait un jeu, je me projetais dans le jeu, et chacun rajoutait une épaisseur de calque. C'était une superposition, finalement, et donc on voyait l'épaisseur par superposition. Celui-ci, je pourrais penser comme ça, mais Cid, c'est pas moi, même si à un moment je me suis demandé si j'étais Cid, et je me suis répondu, je suis Cid, et finalement, suicide, on entendait suicide, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose là-dedans, on peut essayer de me mettre dans cet abîme dans lequel lui s'est mis pour pouvoir me projeter, finalement. Donc, je lui ressemble un peu. J'ai des idées diamétralement différentes aux siennes, mais ça me plaisait de construire un roman négatif et finalement positif parce que c'est un roman où on apprend et on rit. Et qui est même si il est sur la mort, si vous voulez, il est pas du tout morbide. Et donc je voulais continuer cette espèce de lien qu'on pouvait tendre entre moi et le personnage, Sid, le héros ou l'anti-héros, comme vous voulez.
Alors ce Sid Sabak, c'est d'abord un esthète, un dandy, qui découvre assez vite que la beauté seule n'a jamais sauvé personne. C'est un peu une figure rimbaldienne, quelque part, qui trouve que la beauté est amère.
C'est un peu l'inverse de Rimbaud, parce que Rimbaud c'est la pulsion de vie, et Sid, c'est la pulsion de trop de vie, mais trop. Finalement, entraîne vers quelque chose qui n'est pas bon. Moi, il me faisait penser finalement à Kirillov des démons de Dostoïevski, qui dit la liberté sera totale quand il sera indifférent de vivre ou de mourir. Donc ça, c'est Kirillov. Et dans les démons, Kirillov se flingue, mais par mépris pour lui-même et pour la volonté de devenir Dieu. Et donc, cette volonté de devenir Dieu, l'autodivinisation, qui aboutit finalement à l'autodestruction, et ben c'est Sid. Son enfance avait été déifiée par lui et par les autres. Il se prenait pour tout. Et puis finalement, de cette montagne, de cette icarisation des choses, on se brûle et puis on commence la chute. Et donc ça, c'est le second chapitre, il y a la chute, et ensuite on le voit petit à petit se désintégrer, finalement, s'effeuiller.
Oui, rien ne trouve grâce à ses yeux, pas même la grâce. Il bâille face à la création tout entière, il bâille même à la face de Dieu.
Oui, c'est vraiment le roman négatif, lui et le nihilisme absolu, façon Kirillov, en fait. Et le fait de pouvoir penser... créer quand on est dans le négatif, et ben finalement on crée plus de négatif et on s'enfonce jusqu'à la chute finale.
Et en quoi est-il le fils de son époque, son rejeton logique et ultime?
Parce que justement, je pense que c'est une époque nihiliste, et lui l'incarne en l'exacerbant finalement. Même si je pense qu'aussi l'esthétique. L'esthétique s'est perdue. L'esthétique et la politique, il y avait une connexion aujourd'hui. L'esthétique et la politique n'ont plus vraiment grand-chose à voir. L'esthétique et l'art non plus. Mais lui est toujours, il a toujours une idée d'absolu, même dans l'esthétique. Donc, toutes ces arts sont de l'époque, mais ses aspirations, finalement, cette envie de grandeur, parce que. Même si l'épitaphe est une grandeur absurde, de vouloir laisser une épitaphe à sa mort, c'est une idée absurde, mais qui est quand même un désir d'absolu, finalement.
Sans beauté, sans vérité et sans bonté, la vie devient vite invivable. C'est un interminable purgatoire, un petit enfer au quotidien. Ce qu'on découvre assez vite dans votre livre, c'est que Sid, finalement, est possédé par le négatif, pas seulement le nihilisme, mais le négatif, par l'esprit qui sans cesse nie, par le diable.
Oui, il est à un moment, je le dis, le diable distribue les grâces comme les anges, mais c'est des grâces déréglées. Et lui, il fait partie des bénéficiaires de ces grâces-là. Et donc le diable, il y a quelque chose d'attirant chez le diable. Et donc c'est pour ça que chez Sid, il y a quelque chose d'attirant. À force de vouloir approcher, finalement, on s'y brûle ou on s'y glace, parce que l'enfer, c'est une énorme zone de glace. Et donc, lui, il a cette froideur un peu dandy, mais cette froideur devient finalement de plus en plus glacée. Et donc, il se rapproche de l'enfer petit à petit, jusqu'à glisser totalement dans les limbes.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Félix Macheret qui nous parle de son dernier livre, L'Épitaphe, paru aux éditions Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Oui, alors c'est un peu une phénoménologie de l'esprit que vous nous décrivez, hein, c'est un peu le chemin de croix d'une conscience.
Oui, on prend Sid abstraitement ou dans ses grandes lignes. Son enfance, son adolescence, etc., tout ça c'est un chapitre, on arrive très vite à sa chute, et puis après on dégringole avec lui, mais petit à petit, jusqu'au moment où il doit trouver son épitaphe, et là il y a un réveil, finalement, mais parce que... Au fond, Sid veut se guérir de la terre et se construire un ciel, sauf que ce qu'il appelle ciel, lui, est en réalité le néant. Et donc, on voit que les passions sont déréglées et que lui s'y perd. La question, c'était quoi exactement ?
La question, c'était... pour moi, je l'ai perçu comme une phénoménologie de l'esprit, comme le chemin de croix d'une conscience, avec un retournement pour le moins surprenant. Autrement dit, en fait, il n'y a pas ce moment où on arrive à faire jouer le nihilisme contre lui-même.
Non, mais le nihilisme est tellement mou, si vous voulez, qu'on ne peut pas le retourner contre lui-même, parce que tout ça se fond l'un dans l'autre. Le nihilisme, on a beau lui envoyer des choses, il ne répercute pas. Ce n'est pas comme un mur où on envoie une balle et puis la balle va rebondir. Là, vraiment, tout est absorbé. C'est une espèce de trou noir, finalement. Et Sid est dans une espèce de trou noir jusqu'au moment de la jubilation à trouver la phrase. Et donc, c'est ce qui le sauve et en même temps, c'est sa perte. Parce que s'il trouve la phrase, il va se tuer. Et donc, c'est cet absolu qui est l'absolu divin, l'absolu beauté, l'absolu esthétique, qui sera la raison de sa perte, finalement. S'il la trouve, il meurt.
Est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de votre livre ?
Alors, je vous lis ça. Donc, le premier chapitre, c'est sur Sid et sa réussite totale. Ensuite, on passe au second. Là, je vous contextualise. On passe au second et c'est sa chute. Et donc, je prends à partir de là. Il noya ses répulsions dans un stoïcisme sans appel, et ses pensées s'enfoncèrent de la manière la plus choquante, s'il y avait réfléchi, s'il avait eu les moyens de le faire, c'est-à-dire avec froideur et acuité d'esprit, dans la bassesse et le superflu. Il eut sous les yeux le spectacle d'une vie impossible et vaine, étalée là devant lui comme une immense poubelle molle. Il avait atteint le faste vermineux de l'abîme, tout fut horreur et confession négative. L'âge de la haine était venu. C'est ça d'avoir la soif du martyr et le talent de suppléer au mal ce qui lui manque pour atteindre son but. On s'y adonne, on se maudit et on en jouit. Ainsi passent les années. Après tout, rappelons une évidence. Chaque être porte sa croix, un excrément quotidien, et la tentation secrète de se détruire. Au commencement était la chute. L'humanité ne vient qu'après. Et certains ne cessent de tomber, toujours plus bas, jusqu'à l'usure, jusqu'à toucher le fond de leur morosité. La descente s'achève par le dégoût, et cette fin a deux modes, le dégoût du monde ou de soi-même. C'est affreux tout ça, mais une fois qu'on est bien fixé dans son corps, qu'on y a pris ses aises, qu'on continue à dire « ma tête, mon bras, mon sexe », alors qu'on sent sa chair pendre à son squelette comme un vieux trench à un porte-manteau, qu'on emploie le possessif jusque dans ses douleurs, sa merde, son monde, ce corps devient vite inhabitable. Dès lors, ne plus pouvoir se fuir soi-même est un vertige. Résumons. À 33 ans, notre héros se découvrit nu dans les arrières-salles de l'âme, là c'est là, tout en absence, se refermant sur lui-même, lentement, comme le font les fleurs la nuit. De l'avoir bien considéré, la vie lui parut droite et courte, rien de plus qu'un petit couloir triste, encombré d'ennui, la vie. Le froid l'avait saisi, déjà, la mort affirmait sa présence. Et ensuite, le côté rimbaldien passé sous le fil de l'autre amont. Oui, il y avait longtemps que la beauté s'était rassise sur ses rimbaldiens genoux, et le cul pointu de cette vieille déesse l'écrasait bien profond, et lui haussait majestueusement les épaules, sans l'injurier.
Félix Macheret, qui vient de nous lire un extrait de l'Épitaphe, son dernier livre chez Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Comment réussir la fin d'une vie ratée au mieux.
Mmh.
Voilà, c'est un peu son projet, son objectif. Vous l'avez dit, il va être provisoirement sauvé par le désir d'écrire de manière ultime. Il n'y a rien de plus réel que la mort, c'est le comble du réel. Faut-il, comme le héros de votre roman, écrire chaque page, chaque phrase, comme si elle devait être la dernière? Est-ce que vous fonctionnez comme ça?
C'est dur, mais chaque phrase, là, c'est pour une maxime. Et donc, une maxime doit être finale parce qu'elle n'est pas, reliée à d'autres phrases. Dans un roman, chaque phrase doit s'insérer dans l'autre pour qu'il y ait un rythme qui s'opère, etc. Donc, si chaque phrase est la dernière, ça risque de faire compact comme écriture de roman. Mais chaque phrase est importante et chaque phrase a une sonorité spéciale et elle va s'insérer. Pourquoi le cut-up est très beau alors que finalement, il n'y a pas d'insertion consciente finalement des sonorités ensemble, ou le cadavre exquis par exemple, mais chaque phrase entre elles peut, consciemment ou inconsciemment, créer de la beauté, créer une certaine musique. Donc je pense que le roman, chaque phrase doit être construite, non pas pour elle-même, mais en relation à d'autres phrases. Lui, ce qu'il veut, c'est la formule terminale, et donc finir sur une beauté... Une beauté pure, finalement. Donc, je pense pas qu'il faille, pour un roman, par exemple, écrire...
Je pensais qu'il y avait quand même une similitude entre un livre et une pierre tombale, en ce sens qu'une fois que c'est imprimé, c'est définitif et ça reste, au-delà de la vie de l'auteur.
Il
sera jugé sur ses écrits.
Il y a ça, oui, mais il y a ça. Moi, je pense qu'un livre, c'est une petite pierre tombale transportable avec les dimensions de chaque éditeur. Et puis c'est tellement vrai que si on le pousse jusqu'à l'absurde, parce que ce livre pousse des choses jusqu'à l'absurde, mais l'écrivain veut avoir une postérité. La pierre, c'est ce qui résiste le mieux, et donc c'est les tables de la loi, quoi. Finalement, il écrit sur sa table de la loi, mais c'est une seule table de la loi qui est la sienne et qui va venir le surmonter. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes entre la tombe et le livre. Et je me suis plu à mettre la littérature et de la mettre à côté des cimetières. Et je me suis dit, si les pompes funèbres ne devenaient pas un éditeur, par exemple. Parce que c'est tout à fait possible. Et donc, Sid... J'explique un peu, mais donc il voit un ami écrivain pour lui donner quelques conseils, et puis il se dit, bon, les écrivains n'ont plus grand chose à raconter aujourd'hui, il y a beaucoup de redites, je vais aller plus haut, je vais aller vers l'éditeur. Et l'éditeur, on se demande qui c'est, et en fait c'est les pompes funèbres. Et donc là, il se passe une scène où lui lit que j'appelle les croque-morts, il lit aux croque-morts les épitaphes qu'il a trouvées, et puis on a l'impression d'assister à un comité de lecture, finalement. Et donc on lui juge ses phrases, lui va en donner d'autres, on lui donne quelques conseils, etc. Donc ça m'a plu de pousser le fait de rapprocher le livre à la tombe jusqu'au bout.
Votre éditeur, il a apprécié ce passage où il est comparé à un croque-mort?
C'est pas lui forcément, mais je pense que personne se reconnaît dans ce qui est négatif, de toute façon. On se dit, ça c'est pas moi, c'est pour les autres.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Félix Macheret, qui nous parle de son dernier livre, L'Épitaphe, paru aux éditions Gallimard dans la collection de l'Arpenteur. On va marquer une première pause musicale. On va écouter Orlando Julius and the Heliocentrics in the Middle. We'll be right back. Orlando Julius and the Heliocentrics in the Middle. Félix Macherel, Afrobeat, c'est le meilleur remède contre l'antidépression. C'est le meilleur, le meilleur antidépresseur contre notre époque.
Non, il y a d'autres choses. Mais Heliocentrics, je les aime bien. Je les avais vus quand je suis arrivé à Paris en 2013 ou 2014 au New Morning. Et en live, ils étaient 15 ou 20 sur scène et j'ai trouvé ça formidable. Il y en a d'autres, ça c'est très bien. Mais la littérature, pour moi, est l'antidépresseur, j'aime pas, mais c'est vraiment l'extase finalement, plus que l'antidépresseur, c'est ce qui peut procurer le plus d'extase.
Le mal-être de Sid et sa vanité vaine sont-ils pas trop occidentaux? Il lui aurait peut-être fallu voyager un peu plus à ce jeune homme.
Ouais, mais il s'est enfermé. Donc il est resté, après avoir cru conquérir le monde, il est resté enfermé. Donc le voyage, c'était pas quelque chose. Et puis ça dépend ce qu'on fait du voyage aussi. Si on organise sa propre saison en enfer quelque part, mais qu'on n'est pas Rimbaud, à quoi bon? Le voyage pour voyager comme ça, il y a pas de, c'est pas un échappatoire. Ça peut être à la limite une parenthèse, mais après on rentre et puis on est finalement à peu près pareil. Ça lui aurait peut-être servi ou peut-être pas. Lui n'a pas pris ce risque-là. Il est resté enfermé chez lui jusqu'au moment où il a trouvé la bonne idée de suicider.
Le chapitre 9 s'intitule « Celui qui n'a pas ressuscité de son vivant est déjà mort ». Vous pouvez expliquer un peu?
C'est tiré des évangiles, plus ou moins. Chaque matin, finalement, on ressuscite. Et puis parfois, il y a des résurrections qui amènent à un changement. Et donc, toute sa vie, on n'est pas la même personne, on n'est pas le... On se renouvelle, quoi, finalement. Et donc, de ressusciter de son vivant, la résurrection, c'est pas forcément passer de la mort à la vie, mais de la vie à la vraie vie, par exemple. Et donc là, c'est ça.
Alors, vous parliez de la littérature, de la musique, de tout, de l'art, de la foi, du sacré, qui peuvent nous sauver. Et en même temps, vous n'hésitez pas à reconnaître que l'œuvre d'art est le complice du démon. En tout cas, c'est le démon qui est le complice obligé de toute œuvre d'art.
Oui, forcément, parce que sinon ça devient, prenons les œuvres catholiques, par exemple les tableaux catholiques, on préfère Caravage aux saints Sulpicerie qui ont été dictés seulement par Dieu. Donc Caravage et sa part d'ombre. Il est allé vers la beauté du diable il l'a dépassé pour finalement faire des paraboles aux écrits, des paraboles visuelles, picturales. Forcément, je pense pas qu'une œuvre d'art doit être morale. Une œuvre d'art doit pas être simplement belle ou belle âme. Il faut qu'il y ait autre chose. Et prendre tout et en faire quelque chose. Il y avait une phrase de Céline dans Le Voyage au bout de la nuit. Il écrit « À chaque vertu, sa littérature immonde. » On pourrait dire « À chaque vertu, sa peinture immonde. » Les peintures Saint-Sulpiciennes, si vous voulez, personne ne trouve ça bien. C'était vendu à Saint-Sulpice. Il y avait quelques dévots qui les prenaient. Mais on peut s'attacher à Giotto, on peut s'attacher à Caravage, on peut s'attacher à Piero della Francesca, par exemple, qui prennent un morceau de la Bible, vont le picturaliser, le mettre en image. Mais sans pour autant avoir une bonne conscience derrière. Il y a autre chose. C'est comme Michel-Ange. Michel-Ange était à Florence l'année dernière, je crois, et il a représenté le Christ nu, et on voit son sexe. Ça, pour nous, aujourd'hui, ça nous paraît tranquille, quoi. Mais pour lui, ça devait être quelque chose d'énorme, finalement, cette transgression. Donc, il a pris l'incarnation de Dieu, il en a fait un homme. Donc il a tranché dans le débat, est-ce que Jésus est l'incarnation est Dieu ou est-ce que c'est un homme ? Et bien lui a tranché. Mais forcément, ça a dû lui attirer des foudres.
Est-ce que l'art a quelque part essentiellement à voir avec la tentation ? Est-ce qu'il doit nous remettre dans cette situation primordiale entre la pomme et le serpent devant l'arbre ? Est-ce que ça a à voir avec ça ?
Bah, c'est plus sur le désir, peut-être, plus que sur la tentation. La tentation, c'est l'écrivain qui est tenté d'écrire quelque chose. Le désir, c'est son désir, et en espérant trouver le désir des autres. Parce qu'on écrit... On écrit pour soi, on veut créer une belle chose, quoi, un bel objet, des belles phrases. Et puis, il faut que ça parle aux gens, parce que sinon, on est complètement dans l'abstrait et on ne se parle qu'à soi-même. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Autant le prendre et le mettre dans son tiroir et d'être très, très heureux avec ce qu'on a fait. Donc, il y a quelque chose d'universel dans le désir, dans la beauté, dans la musicalité, etc. Il faut essayer de s'y brancher, finalement.
Oui, parce que je pensais à ça, parce que dans les trois pylônes, vous avez écrit, enfin, vous faites dire au personnage, vous vouliez tuer Dieu pour annuler le diable, raté.
Oui, 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 mais le... Oui, c'est...
Mais ça, le drame raté. De notre époque, finalement, c'est qu'on n'a même plus d'occasion de désespérer, on n'a même plus d'occasion de croire.
Oui, ou on a l'impression de... Si on recouvre le mal par le bien, ou ce qu'on pense le bien, le mal va disparaître. Mais c'est comme un voile, finalement. On va cacher le mal et il pourra d'autant plus se reproduire dans l'ombre. Donc c'est raté. Il y a eu une conquête de la raison, etc., pour à petit feu, enfin, au début, tuer Dieu et puis finalement l'enterrer et le désacraliser, le mettre vraiment de côté. Mais est-ce que ça a réglé le mal pour autant ? Non. Parce que le mal existe toujours. Et ça, c'est un des points de l'épitaphe. C'est sur la chute. C'est un roman de la chute. Et donc, l'humanité s'est peuplée après la chute d'Adam et Ève, finalement, c'est qu'il y a eu le péché originel. Et donc ça, c'est depuis Joseph de Maistre ou Baudelaire. C'est de là que je me place, finalement. Donc, le mal est inhérent à l'homme. Le mieux vaut le savoir pour essayer de s'en prévenir, pour essayer de pas agir dessus. Mais si on essaye de le voiler et par du bien, eh ben on a du faux bien qui cache du vrai mal. Et finalement, le vrai mal se fait.
Est-ce que Sid n'est pas victime d'un seul péché qui est celui de l'orgueil ?
Ah bien sûr, mais tout artiste, je pense, doit avoir un péché de l'orgueil. Sinon, on n'écrirait pas, ou sinon, on ferait pas des fresques. Quand on va au Vatican, Michel-Ange, il était orgueilleux d'avoir fait tout ça. Toutes les symphonies, enfin, il y a quelque chose. Wagner, c'est orgueilleux. Il est victime de ça, mais il est victime d'autres choses aussi, parce que sinon tous les artistes se seraient suicidés, et c'est pas le cas.
Quoi qu'on fait souvent le rapport entre la folie et le génie.
Ouais, mais ça, moi, il y a des génies qui sont fous, ou des fous qui sont géniaux, mais tous les fous ne sont pas géniaux, tous les génies ne sont pas fous. Donc il y a des exceptions. Moi, le premier livre que j'avais écrit, c'était sur Artaud, qu'on considérait comme fou, mais qui est génial. Lui-même a écrit sur Van Gogh, le suicide de la société. Finalement, la postérité leur donne raison sur leur génie. Et puis, la société de leur temps les considérait comme fous.
Amis, il n'y a pas d'amis, déclarait Aristote. On retrouve que ce soit dans les trois pylônes, dans l'épitaphe, toujours la figure de l'ami qui est là, même s'il est rejeté, même s'il est renié, mais qui est présent pour dire les vérités à son comparse.
Ouais, moi je le vois plus comme... Je vois plus l'amitié là, sur ces deux comme des blocs, finalement, qui ne laissent pas passer une individualité. Et donc, à chaque fois, il se fait recadrer. Euh, soit, euh, Soit on lui... Dans les trois pylônes, c'était lui qui pensait faire une œuvre géniale, et puis les autres, soit s'en foutaient, soit pensaient à autre chose, soit lui donnaient quelques conseils pour l'arrêter dans sa folie imaginaire. Et là-dessus, c'est dans l'épitaphe, c'est l'écrivain qui veut lui donner conseil, mais il y a une incompréhension finalement entre deux individualités. Il y a Sid et puis il y a l'autre, et les deux se rencontrent sur une plaque, et ça crée des frictions, et puis c'est la friction qui est intéressante, parce que ça permet d'avoir des points de vue, des dialogues. Et donc on voit comment les plaques tectoniques se rencontrent, à quel point le choc peut être important, et puis il en découle, forcément il y aura des reliefs, quoi, parce que les plaques se rencontrent. Et donc c'est d'avoir cette espèce de point de vue et cette distance par rapport à ce point de vue. Et donc avoir un personnage là-dessus, c'est intéressant.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Félix Macheret, qui nous parle de son dernier roman, L'épitaphe, paru dans la collection L'Arpenteur. On va marquer une seconde pause musicale avec un morceau de Miles Davis, Ascenseur pour l'échafaud. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Félix Macheret, qui nous parle de son dernier livre paru dans la collection L'Arpenteur Gallimard et qui s'intitule L'Épitaphe. Félix Macheret, pourquoi ce morceau de Miles Davis ?
J'avais hésité avec le morceau de Satie qui servait de bande originale au feu follet de Louis Malle, mais ça allait un peu moins bien avec Hélocentrix, et donc je me suis dit je vais prendre Miles Davis qui a fait la BO de Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle avec Maurice René, et comme ça il y aura une cohérence. Et ce qui est d'ailleurs assez dingue, c'est que le Louis Malle, c'est Malraux qui lui aurait donné l'idée d'adapter le roman de Drieu, et donc il l'a fait, et c'est un de ses plus beaux avec Alain.
Cid, on peut penser évidemment à Cid Vicious.
En fait ça m'est venu comme ça. Cid, il y avait quelque chose d'assez tranchant, peut-être ça me faisait penser à Cid, donc j'ai vraiment pas vraiment pensé. Peut-être qu'inconsciemment il y avait Cid Vicious, Cid Barrett, peut-être, mais c'est quand je me suis dit je suis Cid, et que à rebours finalement j'ai dit peut-être que ça a fait sens, mais il y avait pas vraiment d'arrière-pensée.
Vous écrivez, toujours dans les trois pylônes, je crois, le christianisme, c'est une tragédie grecque à l'envers.
Eh oui, parce que c'est Dante, c'est la comédie. Donc on part de la forêt obscure, et puis finalement on grimpe jusqu'au paradis et jusqu'à l'amour qui, et donc c'est ça. Et puis dans le catholicisme, dans le christianisme, on monte vers la foi, donc vers Dieu, vers la résurrection, etc.
Et Cid, quand il se sacrifie lui-même, est-ce qu'il pense qu'il va atteindre une forme de sacré ? Est-ce qu'il peut se l'octroyer par lui-même ?
Cid ?
Oui.
C'est difficile à dire. Il y avait les sacrifices humains qui étaient avant... Avant le christianisme, moi je suis allé au Mexique pour mon premier livre sur Artaud. Et donc les Aztèques, les Mayas, les Incas, les Olmèques, etc. avaient le sacrifice humain. Donc dans le sacrifice, il y avait ce don. Est-ce que lui se donne lui-même à Dieu, ou lui-même à une divinité pour se sacraliser lui-même ? Ça, je pense pas. Je pense qu'il y a trop d'orgueil pour pouvoir s'échapper de lui-même.
Alors, vous avez fait le pari audacieux dans les trois pylônes de défendre la foi, l'art et
l'amour.
Et l'amour, évidemment. Ce qui est complètement à contre-courant de notre époque, alors que ça allait de soi pour les Grecs, hein, le bien, le beau et le vrai aller ensemble, ça va aussi de soi pour évidemment les chrétiens, qui considèrent que tout s'incarne dans la beauté, la bonté et la vérité du Christ. C'est pas un hasard si on voit revenir en force ces temps-ci des auteurs comme Léon Blois, Huysmans, Bernanos.
Parce qu'ils disent quelque chose, je pense. Ça peut être un contrepoison à une certaine vision de la société que des gens rejettent. Et puis, il faut dire, il y a ce qu'ils disent et comment ils le disent. Et c'est magnifique. Blois, c'est génial. Bernanos a tout vu juste. Monsieur Wynne, c'est justement ce qu'on disait sur le bien et le mal. Wynne, c'est la contraction de oui-non. Donc, il y a ces aspects troubles, finalement. Et puis, le romancier va s'aventurer dans ces aspects troubles. Barbey d'Aurevilly, c'est les diaboliques. Les diaboliques, c'est prendre le mal pour s'en détourner. Mais finalement, il a fait une œuvre fondée sur le mal. Il y a des figures comme ça, déjà, qui sont littérairement géniaux, et puis avec une verve, une puissance qui est fondamental. Et donc les gens vont se remettre là-dedans pour voir un peu ce qui se passe, et puis soit ils trouvent ça formidable, ils continuent, et puis ils arrivent jusqu'à Ernest Hello, des trucs qui sont très rachitiques mais très vrais, Ou ils prennent une tangente et on peut aller autre part. Mais toutes ces figures-là sont intéressantes parce que elles avaient un rapport au mal qui était fort. Huysmans, avec là-bas, à rebours, etc. Il n'y a pas de béatitude facile. Il faut aussi se recouvrir de merde pour justement, ou de boue comme Baudelaire, pour justement arriver à autre chose. On ne peut pas se placer au-dessus de la mêlée comme ça et puis dire ça c'est bien, ça c'est mal. Eux, ils sont passés par la boue et puis ensuite, ils ont retrouvé l'or. Quoi.
Qu'est-ce que la foi sans l'espérance et la charité ? Je pense à ça parce qu'on trouve chez Bois, chez Huysmans, et même moins chez Bernanos, mais une espèce de colère presque divine, une tentation de se prendre un peu pour un ange exterminateur qui sépare le bon des méchants. Et on se demande parfois chez eux où est la charité et où est l'espérance. Ce sont un peu des chevaliers de l'Apocalypse par moment.
Oui. Bah c'est pour ça moi que je les aime bien. S'ils avaient prêché, dans ce cas-là, on va voir le curé. Et on ne lit pas, de la littérature. Eux... Ce sont des artistes et ils ont pas toutes les qualités mais ils en ont d'autres, ils en ont plein d'autres. Donc il faut ils tirent de la Bible leur enseignement et puis après ils le font à leur sauce et puis la sauce relie chaque aliment, chaque verbe qui s'est fait chair, hop, c'est un plat que eux vont relier avec leur sauce.
C'est valable pour votre livre, mais c'est valable aussi pour Blois, Bernanos ou Huysmans. Où est le prochain ?
Dans ce livre ?
De manière générale, ce que cite sa tragédie, c'est une de ses tragédies, peut-être la principale, c'est qu'il a été incapable d'aimer et qu'il a été incapable de rejoindre le prochain ou de se laisser rejoindre par le prochain.
Ah, mais ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est un... ce livre... C'est la réponse négative aux trois pylônes. Les trois pylônes, vous l'avez dit, c'est l'amour, la foi et l'art. L'art, la littérature, il déteste Sid. La foi, il en a rien à faire. Et même, il prend sa détestation de Dieu qui donne de la valeur esthétique à chaque chose et à chaque être humain. Il prend cette valeur-là et il la retourne pour aimer des femmes pas belles en pensant que son désir vient justement du fait qu'il bafoue l'idée de Dieu. Et donc il y a cette construction contre et l'amour, il est touché par personne et il touche personne. Et donc il est dans une espèce de bulle hermétique et il avance. Au début, cette bulle, elle est portée par une espèce de d'acclamation. Finalement, il est aimé pour ça, pour son cynisme, etc. Et puis finalement, le déclencheur ne se passe pas. Et puis tout ce qui aurait dû arriver avant, finalement, arrive à un moment et il se retrouve face au mur.
Dans les trois pylônes, donc, vous défendiez, on peut dire, une sainte trinité. Dans l'épitaphe, c'est absolument perdu et l'auteur se retrouve dans une aporie totale. Le prochain roman, ça parlera de quoi ?
Je ne sais pas encore.
Vous sentez la dialectique entre les deux et avec la volonté de dépasser ça ou...
Non. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. Forcément, je vais y revenir. Là, le premier, c'était sur Arte au Mexique. Et donc, j'aimerais bien... reprendre quelque chose sur l'exil plutôt que là-dessus. Et ensuite j'ai des carnets qui sont pleins d'aphorismes, de pensées, de toutes ces choses qui sont dégangées de la narration, et ça j'aimerais bien en faire quelque chose aussi.
Alors vous écrivez de la littérature, mais vous écrivez aussi dans la presse, vous écrivez dans Art Press, mm-hmm. et dans Possession Immédiate. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une différence entre écrire pour un roman, écrire pour un essai et écrire pour une revue? Ou c'est la même chose?
C'est plus court, mais l'intensité, c'est la même chose. Chaque chose qui est imprimée, de toute façon, est importante. Donc il faut le faire en fonction. Et puis ça prend moins de temps d'écrire un papier de 10 000 signes ou une pensée de 2 000 signes qu'un roman, forcément. mais l'intensité est la même. Et puis, si on veut le publier, c'est qu'on le rend public, et donc c'est important.
Il y a aussi la dimension collective. Dans les revues, on est plusieurs. Il y a des affinités, des amitiés, ou même des rivalités.
Ouais. Le côté revue, c'est quelque chose de génial, parce qu'on essaie de défendre... La personne qui monte une revue essaie de défendre une esthétique, surtout une esthétique, vraiment, parce qu'après, tout vient, c'est un peu se greffer, etc. Et vu qu'on n'a pas le temps d'écrire tout seul, on fait appel à des gens qui peuvent ramifier un peu une même idée. Et puis parfois on reçoit des textes qui sont contre. Et puis après ça permet un dialogue, ça permet de faire les choses. Mais la revue c'est ça. Quand on voit le nombre de revues qui se sont passées depuis Dada, Surréaliste, etc. Y a plein de textes qui sont pas très bons, qui n'ont pas survécu. D'autres qui sont géniaux. Cravant avait écrit ses textes, c'était génial. Mais c'est vraiment l'envie de rassembler un maximum d'idées, de phrases, de pensées, etc., de choses qu'on ne peut pas faire soi-même. Et donc, on déplie tout ça, mais avec d'autres bras et d'autres poignets qui vont écrire leur truc.
Vous sentez des affinités avec les auteurs contemporains, par exemple John Jefferson Selve, Yannick Hanel, Valentin Rey. C'est des gens qui vous touchent, que vous connaissez?
Ouais.
Ou d'autres personnes?
Oui, j'en connais. J'ai un groupe d'amis aujourd'hui, de gens. Jeff, j'ai écrit dans sa revue, on se connaît depuis quelque temps. Donc, si j'accepte d'écrire quelque part, soit c'est pour être le mouton noir de cette chose, soit c'est parce que je trouve ça bien. Et Possession immédiate, c'est parce que je trouve ça bien, ce qu'il a réussi à faire depuis maintenant 10 ans, je pense. Donc c'est bien.
Et la revue Aventure?
Revue Aventure, j'écris dans le dernier.
Voilà.
Un texte
qui parle de...
C'est sur le... C'était, je répondais à la question de mémoire, c'est que peut-on écrire...
Que peut la littérature et à qui?
Non, c'est pas ça, c'est avec l'extrême droitisation. Il y a quelque chose avec que peut-on écrire aujourd'hui avec l'extrême droite. Donc j'ai écrit mon texte.
Vous pensez comme John Jefferson Selve que le tournant fasciste, en tout cas extrême droite, de la politique a directement à voir avec le nihilisme? Qu'il y a en tout cas un rapport de vase communicant, même si pas un rapport de cause à effet?
Je pense que c'est un problème. Je pense que c'est de toute façon la politique intérieure, c'est le coup de bâton et retour du coup de bâton. Et donc il y a un métronome comme ça. Et donc il y a eu un moment la gauche, la droite maintenant se réveille. Ensuite la gauche va se réveiller. Et donc ça va battre le tempo comme ça de la politique française.
Non, je parle d'un phénomène mondial là quand même. Il y a Trump, il y a Mélanie, Venezuela. Voilà.
Oui, mais c'est un peu la même chose. Après, Venezuela, c'est
en Colombie, pardon.
Colombie, là, avec le nouveau président. Pour d'autres pays, j'en sais rien. Mais je sais que pour la France, il y a ce ras-le-bol qui, à un moment, va passer de l'autre côté. Et puis, quand la droite aura le côté Gramsci, sa puissance, la gauche va reprendre, et puis ça va communiquer comme ça. Après, le fascisme, il y a tellement de définitions. Si on reprend les définitions mussoliniennes, je vois pas vraiment du Mussolini aujourd'hui, quoi, par exemple.
Il y a une aspiration au maître, au père, à la figure autoritaire qui peut être un substitut de la figure divine, sans passer par la fraternité de la démocratie.
Oui, mais le président, c'est ça, de toute façon. Le président français, en tout cas. En France, c'est ça. Il y a la figure, depuis le général de Gaulle, avec l'homme providentiel, quoi. Donc il y a eu ça, et puis Macron a complètement... c'est devenu vrai... Les gens se rendent compte de l'escroquerie, en fait. Donc, ouais.
Pour revenir à votre livre qui s'appelle L'Épitaphe, alors je rappelle, on l'a dit, mais on va préciser quand même, c'est très drôle. Moi, j'ai énormément ri, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait illisible, ça serait étouffant et désespérant. Mm-hmm. Mais c'est vraiment très drôle. Il y a des épitaphes, donc un jour, à un moment, le personnage se rend, en manque d'inspiration, se rend dans un cimetière pour regarder divers épitaphes. Vous avez réfléchi à votre propre épitaphe, laquelle vous garderiez ?
J'ai pas réfléchi. Encore, là, il y en a quelques-unes dans le livre. À la fin du livre,
bon, vous en rajoutez.
J'en égrène quelques-unes qui sont soit drôles, mais burlesques, soit qui conviennent pas, quoi. Mais en tout cas, on le voit chercher. On voit Sid chercher dans ses pensées pour en écrire. Et puis, il va à chaque fois. Dire pourquoi il aime bien, ça il l'aime bien, ça il l'aime pas, etc. Et à la fin du livre, j'en ai mis une liste, une autre liste, parce qu'il m'en restait et que je voulais pas les intégrer dans les chapitres, ça faisait trop. Et donc ça me permettait de terminer avec quelques maximes comme ça, que j'aime bien. Mais moi, j'ai pas encore pensé, je me laisse encore un peu de temps.
Tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Merci beaucoup Félix Macheret d'être venu nous parler de votre livre « L'Épitaphe ». Paris aux élections Gallimard dans la collection L'Arpenteur. Merci à René Clancy d'avoir assuré la technique. Merci au moment de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Pour notre part, on se retrouve en septembre avec pour invité Yannick Hanel, Victor Dumiot, Jean-Pierre Montal, Jean Felzid ou encore Sarah Bourg. Voilà, La vie est un roman cette année a fêté ses 10 ans d'existence, animé par le génial et regretté Yves Tanret. Yves, j'espère avoir été digne de toi, digne de cette émission et d'Aligre FM. Pour ma part, je tâcherai d'être à la hauteur dans une nouvelle émission à la rentrée. À très bientôt.